Laurent Levasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président et directeur de Blue Linea. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives. Donc, avec votre publication pour 2014, on voit une nette croissance de l'activité. On va reparler des résultats qui, eux, sont effectivement, c'est une perte nette. Hein, vous allez nous expliquer ça. Sur la partie activité dans votre domaine, donc les objets connectés pour la santé, vous êtes satisfait de cette année?
Oui, cette année a été vraiment une année importante. C'est l'année qui a enclenché un changement de statut. Nous sommes en train de passer du statut de start-up prometteuse à petite ETI et c'est un moment important.
Justement, ces objets connectés, on en a beaucoup parlé cette année, et particulièrement dans la santé. Ils sont en train de s'installer on va dire, auprès des particuliers, auprès des entreprises qui en ont besoin, comme notamment les établissements de santé.
Alors, nous ne sommes pas constructeurs d'objets connectés, hein, nous sommes opérateurs d'objets et services connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les objets connectés qui fleurissent chaque jour un peu plus pour les encapsuler dans des abonnements, dans des services à vocation pour personnes âgées, pour personnes en perte de fragilité. On appelle ça, vous savez, la silver economy. Donc ça a été une année importante parce que le marché s'est structuré, les offres se sont industrialisées de plus en plus et nous avons pu ainsi vraiment proposer des services de plus en plus fiabilisés à nos bénéficiaires.
Donc pour vous, l'enjeu, c'est effectivement c'est ce qu'on appelle la suite logicielle, hein, de la développer, de l'améliorer, de lui amener encore plus d'opportunités.
Alors voilà, on a amené deux types de travaux. La première phase, ça a été de mettre au point un logiciel qui pouvait agréger les données de différents types d'objets venant de différents types de fabricants. Ça, c'est ce que nous avons, c'est un pari réussi. Et puis, le deuxième travail a été surtout de mettre en place un modèle économique pour le rendre accessible. L'année dernière, par exemple, on avait terminé l'année à 50-50 avec autant de B2B que de B2C, des établissements de santé, des EHPAD, des hôpitaux et puis des particuliers. Cette année 2014, on l'a clôturé en fin de compte avec un tiers de tiers. Un tiers de B2B, deux tiers de B2C, donc des particuliers. Et ces particuliers qui ont souscrit massivement à nos abonnements, nous sommes aujourd'hui à plus de 65% de notre chiffre d'affaires récurrent, c'est-à-dire sous forme d'abonnement, ce qui est un chiffre d'affaires plutôt sympathique parce qu'il nous permet d'aborder l'avenir avec sérénité.
Justement, alors cette année, vous avez consacré à pas mal d'investissements. Donc, cette perte nette, elle est principalement liée à votre choix finalement d'investir?
Alors, si vous regardez comment nous affichons et présentons nos chiffres, ça a été fait en accord avec nos commissaires aux comptes. En fin de compte, nous sommes une start-up qui a commencé à rencontrer un premier marché. Donc, l'activité commerciale, on produit un résultat de l'exploitation hors frais de R&D. Ce résultat est positif. Donc, l'activité commerciale de l'entreprise est rentable. C'est un élément important. Deuxième élément, en effet, nous avons des résultats nets par groupe négatifs. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'active pas la R&D. C'est-à-dire qu'on ne l'immobilise pas sur plusieurs années. On l'inclut dans nos comptes l'année où elle est consommée. Et ça, c'est un choix d'actionnaire. On a voulu accélérer le go-to-market, c'est-à-dire que cette année, on a encore augmenté la R&D comme l'année dernière. Maintenant, nous sommes arrivés à la stabiliser, hein. On a voulu accélérer la mise à disposition de nos services sur le marché et c'est pour ça que nous avons ce qui s'appelle une perte nette qui a augmenté. Mais cette perte nette, en fin de compte, est le résultat surtout d'investissements voulus par nos actionnaires. Et ça, c'est important de le souligner. C'est ce qui fait qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui une gestion assez saine financière d'entreprise, vu qu'on n'a aucune dotation et d'immobilisation liée à notre R&D.
Justement, du côté peut-être des nouveaux besoins que vous avez mis en place par rapport à votre plateforme logicielle, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on parle beaucoup de la data, on parle beaucoup effectivement de cette utilisation des données, aussi cette interprétation des données finalement qui sont dans ces objets. Qu'est-ce qui se met en place chez vous de plus en plus?
Alors, cette année, ça a été une année où on a augmenté la partie R&D pour pouvoir arriver à mettre en place des moteurs de règles et beaucoup plus d'interactivité entre le domicile et notre plateforme H24. C'est-à-dire avoir la capacité à distance à pouvoir intervenir sur le domicile. On a créé un pôle domotique pour ça. C'est important par rapport à ces personnes. Et puis, qui sont chez elles, comment on peut leur ouvrir les volets à distance, comment on peut avoir une communication avec ces personnes la plus aisée possible, on appelle ça de l'interphonie, et comment on peut avoir un suivi de l'activité de ces personnes à leur domicile pour faire du préventif. Et sur l'aspect big data, c'est le terme employé en ce moment, bien évidemment, on a mis en place un moteur de règles qui nous amène presque à faire du prédictif et de pouvoir prévenir certains types de situations comme la chute ou comme de la perte d'autonomie.
Comment vont évoluer justement, on voit ce qu'on appelle la Silver Alliance, donc là il y a les opportunités effectivement de trouver avec d'autres partenaires pour effectivement se développer, vous avez fait notamment un partenariat avec O2, qu'est-ce que vous en attendez finalement de ces partenariats?
Alors, la démarche d'O2, enfin, notamment de Guillaume Richard, son PDG, est assez intéressante. Pendant un an, il a regardé les différents acteurs de la silver economy. Moi, j'étais même surpris de le voir dans pas mal de réunions. C'est une société de service à la personne au départ. Et au bout d'un an, il nous a contactés et il m'a demandé de bien vouloir participer à la création d'une filiale commune qui allait prendre pour nom la Silver Alliance. On a fait une annonce en ce sens tous les deux au mois de décembre, donc cette structure va bientôt naître. Et au sein de cette structure, c'est comment on arrive à proposer ensemble, avec d'autres partenaires que nous allons aussi amener dans cette structure, comment on arrive à proposer des offres Silver. Vous savez, il y a les offres seniors, les offres juniors, les offres enfants. Les offres Silver, c'est après senior. Comment on peut arriver ainsi, en confiance, à proposer des services, en partageant plus des brochures, un transfert de confiance, mais en donnant un accès direct à chaque particulier et en partageant bien sûr une charte commune d'accueil de ces personnes. C'est assez novateur et c'est ainsi qu'on démarre cette activité. Pour nous, ça va être l'opportunité d'être prescrit dans plus de 180 agences en France. Donc pour une entreprise de notre taille, c'est pas anodin.
Du côté des perspectives, vous envisagez aujourd'hui peut-être d'aller de voir à l'étranger ce qui peut se passer. On imagine l'Europe, bien entendu. Vous êtes en réflexion, vous êtes en train d'étudier les marchés. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, on est un peu plus qu'en réflexion. On a eu un certain nombre d'appels entrants de personnes, notamment d'Allemagne par exemple, pour pourquoi pas mettre en place nos services localement. Alors, on y va doucement. On ne veut pas y aller trop tôt. Pour nous, il était important déjà de passer cette année 2014 en se concentrant sur la mise à disposition de nos solutions de plus largement. Et puis c'est vrai qu'on va enclencher sur 2015 plusieurs partenariats ou mises en place. On ne va pas partir de from scratch. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y aura un chiffre d'affaires sensible sur l'international cette année. Non. Mais il faut le préparer pour l'année prochaine.
Vous auriez besoin de lever des fonds, par exemple, pour faire cette expansion-là, ou pourriez la faire sans lever de fonds?
Alors, on a un indicateur assez simple chez nous. En l'espace d'un an, on est passé de 9 000 à 12 000 abonnés. On a une capacité, on a un BFR qui nous permet de gérer et de pouvoir mettre en place 400 à 500 nouveaux abonnés par mois. C'est pas mal. Ça nous va bien. Par contre, c'est vrai qu'on a des perspectives aujourd'hui qui vont nous amener peut-être à réfléchir à ce genre de disposition. Pourquoi? Parce que si demain on se met à avoir 1 000, 1 500 nouveaux abonnés par mois, ce qui reste petit, mais par rapport à notre taille et ce que nous sommes en train de faire, va être un sujet à gérer, parce que c'est ce modèle économique de l'abonnement inspiré du smartphone qui nous permet aujourd'hui de rencontrer facilement un marché. Alors chez nous, ça s'appelle plus le B2C. Ça s'appelle le C2B, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de particuliers qui s'auto-prescrivent nos solutions, et c'est ainsi qu'on arrive à se déployer.
Eh bien, on suivra ça. Merci Laurent Levasseur.
Merci beaucoup.